Le journal est présenté par Thomas Pontillon.
Bonsoir. Il avait écorné la République exemplaire voulue par François Hollande. L'affaire Jérôme Cahuzac connaît encore un nouveau retentissement. Aujourd'hui, à l'ouverture de son procès, l'ex-ministre affirme qu'une partie de l'argent caché visait à financer le mouvement politique de Michel Rocard. Toujours au chapitre politico-judiciaire, Nicolas Sarkozy pourrait lui aussi se retrouver au tribunal pour le financement illégal de sa campagne de 2012. Le parquet de Paris réclame un procès. La fin du G20 en Chine et les pays les plus riches promettent de lutter contre le protectionnisme et le populisme. Le Brexit s'est aussi invité dans les débats, une sortie de l'UE discutée aujourd'hui au Parlement britannique. Et puis loin, très loin de la Terre, on a retrouvé la trace de Philae, le petit robot posé sur la comète Chury et porté disparu. Explication à la fin du journal. L'argent lui a servi à payer des appartements à Londres à ses enfants, mais aussi à financer des vacances à l'île Maurice. Mais devant la justice, Jérôme Cahuzac affirme que son premier compte caché ne lui appartenait pas. Il devait servir à financer la campagne électorale de 1995 de Michel Rocard. Il ne l'a jamais su, assure l'ex-ministre du budget qui a beaucoup parlé aujourd'hui, Florence Tuturne.
Jérôme Cahuzac a choisi de parler et de parler de ce premier compte ouvert en Suisse au printemps 92 au nom de son ami Philippe Péninck, avocat fiscaliste aujourd'hui proche de Marine Le Pen. Le point de départ de tout, souligne le président, une erreur fondatrice, précise l'ancien ministre du budget. Les premiers virements alimentent le compte début 93, plusieurs centaines de milliers de francs. Ils proviennent des laboratoires pharmaceutiques Pfizer, mais ce n'est pas le fruit de mon travail, poursuit Jérôme Cahuzac, ces sommes ne me sont pas destinées. Elles doivent servir au financement d'activités politiques pour un homme qui, j'espère alors, aurait un avenir national, Michel Rocard. J'étais jeune, enthousiaste, militant, se défend Jérôme Cahuzac. Nous étions à une période charnière, tout le monde faisait ça et l'industrie pharmaceutique a servi à financer tous les partis politiques, tous. En réalité, l'argent destiné à la campagne présidentielle de 95 ne quittera jamais son compte suisse. La déroute du Parti socialiste aux législatives va marquer le coup d'arrêt des versements. Je n'y ai jamais touché. Alors pourquoi ces aveux tardifs? Le prévenu répond sans hésiter. Je ne voulais pas faire de mal à Michel Rocard. Si je me décide à parler aujourd'hui, je ne crois pas que cela nuira à son héritage politique.
Et pour parler de l'affaire Cahuzac, nous sommes avec Monique Pinson. Charlot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, auteur de Tentatives d'évasion fiscale aux éditions La Découverte des Zones. Vous avez donc suivi aujourd'hui la première journée d'audience au tribunal de Paris et entendu donc Jérôme Cahuzac dire que des laboratoires pharmaceutiques ont financé des hommes politiques à travers ces comptes cachés. Tout le monde le savait, tout le monde le faisait à l'époque, dit-il. Une déclaration choc, mais est-ce que finalement il ne révèle pas un secret de polichinelle ?
Si, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était, enfin, pour la petite sociologue que je suis, c'était un moment fort de cet après-midi que d'entendre quelqu'un qui est aux prises avec la justice déclarer comment finalement il avait par soutien politique pour Michel Rocard franchi d'une façon. Je ne sais pas comment dire, inscrite dans la sociabilité mondaine avec un ami, Philippe Péninck, qui n'a pas du tout les mêmes idées que lui, mais qui est vraiment un ami cher. Comment il commence à franchir l'illégalité avec le financement occulte du Parti Socialiste pour le courant de Michel Rocard. Et ces moments-là ont été des moments incroyablement forts. Ce que je retiens, c'est comment pour eux, la séparation des pouvoirs, c'est du pipeau. C'est-à-dire qu'on voyait le président de cette 32e chambre essayer de montrer qu'il y avait des conflits d'intérêts, qu'il y avait tout ça, qu'on ne pouvait pas être chirurgien, travailler pour des laboratoires pharmaceutiques, avoir des responsabilités politiques, qu'il y avait du conflit d'intérêts. Et Jérôme Cahuzac disait, mais non, c'est des amis, on se rencontrait, on se voyait. Et sincèrement, c'est comme ça qu'on a aussi travaillé dans ce milieu des gens des beaux quartiers. On a toujours constaté qu'en effet, ils étaient toujours entre eux, public, privé, toutes les autour de la table, il y avait toujours toutes sortes de professionnels occupant les positions les plus dominantes dans chaque secteur de l'activité économique et sociale, et puis qu'il y avait des tas de choses qui se passaient entre eux au cours d'un repas, par exemple, d'un cocktail.
Et est-ce que certains peuvent trembler ce soir, puisque Jérôme Cahuzac dit que certains encore au pouvoir étaient au courant et ont participé à ce financement ?
Oui, mais là aussi, moi, vous m'auriez interviewé au moment de l'affaire Cahuzac. Je vous aurais dit, mais bien entendu, la seule chose qu'on peut reprocher à Jérôme Cahuzac quand on est au gouvernement avec les plus hautes responsabilités, c'est qu'il est craqué. Tout le monde savait, il a craqué.
Alors c'était un procès important, ça a été le plus gros scandale sous le quinquennat de François Hollande. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un après Cahuzac, est-ce que ce genre de scandale pourrait à nouveau éclater? Est-ce que la gestion de la fraude fiscale a été nettement améliorée depuis?
Eh ben écoutez, c'est pas du tout ce que nous avons montré avec notre ouvrage Michel et moi, puisque nous avons écrit un chapitre dans notre livre à propos du paquebot de Bercy qui vogue sous pavillon de complaisance, où nous avons démontré qu'avec le verrou de Bercy, seul le ministre du budget, alors quand c'est Jérôme Cahuzac, ça fait tâche, seul le ministre du budget peut déposer une plainte auprès de la justice. Et sinon, ça permet au ministre du budget d'aiguiller les copains de classe, les camarades de classe, d'être orienté vers des cellules de repentance et de ne jamais passer devant des tribunaux. Parce que si vous voulez, c'est ça le problème de la délinquance en col blanc, c'est qu'on veut bien payer, mais jamais passer devant le tribunal. Et si Jérôme Cahuzac est aujourd'hui présent pour une quinzaine de jours au tribunal correctionnel de Paris, cela n'est pas dû au résultat de la traque fiscale, c'est aussi un problème de séparation, de divorce. Et au fond, nous, ce qu'on a montré avec Michel dans notre tentative d'évasion fiscale, c'est que la plupart des gens riches qui ont des comptes à rendre avec le fisc parce qu'ils n'ont pas déclaré des impôts de l'argent qu'ils auraient dû déclarer, pardon, c'est pas le résultat de la traque fiscale, c'est le résultat d'une part des lanceurs d'alerte, que ce soit Hervé Falciani, Antoine Deltour, avec toutes les SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, donc des lanceurs d'alerte et des divorces, des problèmes de famille. Alors l'affaire Bettencourt, je n'ai pas peine que je vous le rappelle, et l'affaire Cahuzac qui est un espèce de condensé de tout ça.
Alors vous parliez tout de suite de la traque fiscale et c'est aussi un des points que vous soulevez dans votre livre. Bercy n'a pas forcément les moyens de la mener cette traque.
Ah, Bercy ne s'est pas donné les moyens, ne se donne plus les moyens procéder à cette traque fiscale, puisqu'il y a eu 30 000 salariés de moins depuis une petite dizaine d'années. Donc c'est une purge énorme. Et du coup, les plus riches sont gagnants de deux côtés. D'une part, il n'y a plus les moyens pour les traquer. Et d'autre part, ça fait des économies au niveau du budget de l'État qui donneront des CICE et autres pactes de responsabilité pour les actionnaires des plus grandes entreprises, ces actionnaires étant vraiment des gens de chair et d'os qui habitent dans les beaux quartiers.
Merci Monique Pinson-Charlot, auteur de La tentative d'évasion fiscale aux éditions La Découverte des Zones, d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Lui aussi pourrait avoir des ennuis avec la justice. Nicolas Sarkozy est menacé par un procès en correctionnel. C'est ce qu'a requis aujourd'hui le parquet de Paris dans l'affaire du financement illégal de la campagne électorale de 2012. Une nouvelle manœuvre politique grossière des annonce l'avocat de l'ancien chef de l'État. Les juges ont désormais un mois pour décider ou non d'un renvoi. C'est en tout cas un poids pour le candidat à la primaire de la droite. Ses concurrents décident de garder le silence. No comment, dit Alain Juppé, Bruno Le Maire et François Fillon. Écoutez la réaction de Jean-François Copé, souvent cité dans l'affaire, mais pas mis en examen.
Cette réquisition qui a été prise par le parquet, elle vient confirmer mon innocence. Dans cette affaire, qui au départ était appelée Big Malion, mais qui en fait est devenue l'affaire des comptes de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, et où j'avais été désigné coupable idéal par tous ceux qui pouvaient y avoir intérêt il y a 2 ans et demi. J'ai tout perdu de ce point de vue, hein, en quittant la présidence de l'UMP, dans des conditions de violence, de haine, un espèce de procès public instruit sans magistrat par des responsables politiques ou des médias que ça arrangeait.
Deux mises en examen pour Nicolas Sarkozy. Est-ce que simplement à titre moral, il peut se présenter devant des électeurs?
Je n'ai pas à juger pour les autres. J'ai tellement souffert moi-même de la haine et de la violence que j'ai considéré que je devais sortir de tout cela. J'ai d'ailleurs regretté les propos de François Fillon qui était très agressif alors qu'il a été son Premier ministre pendant 5 ans, très agressif à l'égard de Nicolas Sarkozy. Je trouve que ce n'est pas très convenable. C'est Nicolas Sarkozy de dire ce qu'il doit faire ou ne pas faire. C'est aux Français de juger. Et la seule chose que je puisse vous dire, c'est que moi, si j'avais été mis en examen, et je l'ai dit publiquement, je n'aurais pas été candidat à la primaire de la droite et du centre, parce que c'est l'idée que je me fais de l'éthique.
Jean-François Copé au micro de Ludovic Piétenu. Le burkini, encore une fois, se retrouve dans l'actualité. Le porter est une provocation, selon Manuel Valls. Le Premier ministre estime qu'il symbolise la volonté de l'islam radical de s'imposer dans l'espace public. Il l'écrit dans une tribune publiée par le Huffington Post. Une réponse à l'article du New York Times publié cet été qui fustigeait l'attitude de la France vis-à-vis de cette polémique. La fin du G20 en Chine ce soir. Les 20 pays les plus riches au monde veulent lutter contre le protectionnisme économique pour ne pas ralentir la croissance mondiale. Russie et États-Unis ont parlé aussi de la Syrie sans trouver un accord de coopération, même si Washington et Moscou estiment que les discussions ont quand même été productives. Le G20 ou le Brexit est aussi évoqué. François Hollande accepte que le Royaume-Uni n'officialise sa sortie de l'UE que d'ici quelques mois. Le président français, pourtant pressé, semble tomber d'accord avec Theresa May, la première ministre britannique avec qui il s'est entretenu sur le sujet en Chine et à plusieurs milliers de kilomètres de là, au Parlement à Londres. Là aussi, le Brexit est sur la table pour la rentrée parlementaire. Premier discours de David Davis, ministre en charge du dossier, et pas pressé de consommer le divorce avec l'Union, Antoine Gignot.
Pour l'instant, il est urgent d'attendre. Voilà le message de David Davis. Le ministre du Brexit le confirme. L'article 50 pour lancer la procédure de sortie de l'Union ne sera activé qu'au début de l'année prochaine. Dans l'intervalle, le gouvernement va tenter de résoudre une équation en théorie impossible, fermer les frontières pour contrôler l'immigration tout en conservant la libre circulation des biens. Après les divisions du gouvernement ces dernières semaines, c'est donc surtout un discours d'apaisement. Oui, les projets déjà lancés en partenariat avec l'Union européenne seront menés à terme. Oui, la Grande-Bretagne va conserver une coopération militaire et des accords de police, mais pour le reste, tout est à faire. Il y aura des consultations avec des politiques, des syndicats, des patrons, des chercheurs, et en parallèle, le ministre du Brexit va s'envoler rapidement avec Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, en direction de Dublin, Washington, puis Bruxelles et la plupart des capitales européennes.
Au Gabon, l'inquiétude du Quai d'Orsay, sans nouvelles de plusieurs Français sur place, une dizaine de personnes environ qui ont la double nationalité, alors que le candidat malheureux Jean Ping lance un appel à la grève générale mais sans violence pour protester contre la réélection d'Ali Bongo la semaine dernière. Le combat n'est pas terminé, dit-il. Ce soir, le ministre de la Justice annonce sa démission, première défection depuis le début des troubles après les élections. Nouvelle journée particulièrement meurtrière en Syrie. Une série d'attaques à la bombe a tué au moins 48 personnes dans 4 villes contrôlées soit par le régime, soit par les forces kurdes. Des opérations kamikazes menées simultanément et revendiqué par le groupe État islamique en pleine déroute autour de la frontière turque. On avait perdu sa trace. Finalement, le robot filet a été localisé. L'engin atterri sur la comète Tchouri en novembre 2014 n'avait plus donné de nouvelles depuis un an. Il se trouve dans une fissure de la comète, une découverte qui ne change rien à la mission. On sait simplement, Sophie Bécherel, où le petit robot a terminé sa vie.
Coincé dans une faille de la comète, très à l'ombre et surtout posé sur le flanc avec deux pieds en l'air et les antennes orientées vers le sol, c'est exactement comme cela que l'avaient imaginé les scientifiques et tel qu'il apparaît sur une photographie prise par Rosetta, la sonde qui continue d'étudier la comète jusqu'à la fin du mois. Rosetta a retrouvé l'aventurier spatial en le survolant à 2,7 km d'altitude. L'incapacité de Philae de communiquer est donc confirmée. Il parlait à la comète au lieu de parler à Rosetta. Ceux qui ont longtemps tenté de le réanimer depuis Toulouse ne sont pas déçus ce soir. Philippe Godon est responsable de Philae au CNES.
Ce qui aurait été décevant, c'était de ne pas le trouver là où on pensait l'avoir identifié, pas le retrouver du tout à la surface, en se disant peut-être que la comète l'a expulsé, n'étant pas attaché à la surface, ou alors il avait été recouvert de poussière à tel point qu'on n'était plus capable de l'identifier, enfin de le voir quoi, à la surface. Non, en fait, il est là exactement où on pensait qu'il était. Et toutes nos difficultés venaient du fait qu'on n'a pas atterri à l'horizontale.
La vie de Philae Superstar aura duré 10 ans et 60 heures. 60 heures, le temps de vie que ses batteries propres lui avaient donné et qui ont permis d'envoyer un paquet d'informations inédites sur la comète. 10 ans, le temps de voyage, temps fatal, car les harpons censés lui assurer l'ancrage au sol au premier contact n'ont pas résisté à une décennie de froid intersidéral. Et parce que ces harpons ne se sont pas déclenchés, Philae est allé se coincer dans cette faille obscure de la comète.
Avant de se quitter, un mot de météo pour demain. Sortez les parapluies si vous vous trouvez dans le nord. Ce sera nuageux en Bretagne et Normandie. Ailleurs, un beau soleil. Les températures seront douces le matin, comprises entre 20 et 25 degrés. Et elles dépasseront les 25 degrés partout en France l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.